qui me fait un peu peur toujours dans et surtout depuis la disparition d'Edouard, c'est la façon dont les mots créolité, mais créolisation en particulier, ce métissage, se sont retrouvés un peu mêlés à beaucoup de choses. Et je crois que ce temps aujourd'hui est un temps important, non pas parce que ça permettrait de stabiliser une vérité de manière définitive, je crois qu'on n'en est pas du tout là, mais essayer de faire résonner au mieux ce type de terme. Je vais pas en faire l'histoire. Je vais essayer justement d'approcher les choses à partir de la question qui m'a été posée. Je rappelle, hein, cette question, elle est écrite sur le programme. Elle est quand même assez délicieuse. Hein. Je vous la rappelle. Les littératures antillaises et haïtiennes sont-elles porteuses d'un bien commun susceptible de surmonter les conflits hérités de décolonisation incertaine? C'est très gentil, mais ça, c'est le sujet pas d'une thèse, mais d'une équipe de thésards et pendant un certain temps. Alors, mais en même temps, c'est vrai que la question, elle est aussi cruciale et qu'elle est un peu au centre. Enfin, elle est là, elle permet de donner un certain nombre de perspectives à cette approche des pratiques de la créolisation. Et donc, moi, plutôt que de rentrer directement, je vais partir de mes propres spécialités puisque je travaille sur les littératures. Enfin, s'il y a un objet qui est bien un objet second, lointain, distant et souvent conçu comme, enfin perçu comme extrêmement lointain des préoccupations scientifiques, c'est bien la littérature. Or précisément, il faut aussi se replacer dans cette perspective que, on parle de littérature francophone, de littérature des Antilles, de littérature du Sud, de littérature monde en français, de littérature, etc. Et finalement, ça n'a pas été aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas vraiment avant la Deuxième Guerre mondiale, que les textes qui existaient déjà auparavant ont commencé à avoir un retentissement extrêmement important après la guerre, notamment avec la publication du cahier d'un retour au pays natal, la réédition à présence africaine, et puis qu'à partir de là, une histoire importante s'est mise en route, et que ces littératures, elles sont, comment dire, rentrées dans le champ à la fois de lectorat. Je vais me rester ici quasiment dans un cadre français, métropolitain, parce qu'autrement le sujet est extrêmement vaste, et qu'elle récolte des prix, des reconnaissances. Je rappelle quand même qu'en 2009, donc avant le séisme en Haïti, et il faut être très clair là-dessus, des écrivains haïtiens ont reçu 13 prix dans l'année, ici en métropole. Okay, donc ça c'est le résultat d'un travail de fond, dans lequel sont impliqués évidemment des écrivains, mais également des systèmes d'édition et toute une série d'acteurs. Et moi, je vais essayer de me concentrer, là, maintenant, et je vais y arriver, sur deux textes qui me paraissent importants, et c'est étrange, des textes qui sont un peu... Voilà, on en parle peu, on en a peu parlé au moment de la disparition d'Edouard. Eh bien, le premier texte, c'est le 4e siècle d'Edouard Glissant. Le deuxième, c'est un texte haïtien qui est disponible en France, qui a été publié. Je rappelle que, pardon, le 4e siècle est disponible chez Gallimard dans une collection de poches. Donc ça veut dire aussi que c'est un texte largement diffusé, très simplement. Et puis l'autre, c'est l'adaptation en français d'un texte écrit en créole haïtien par le même auteur, qui est Franck Etienne. Comment on est passé de Désafi aux affres d'un défi? Et ça a été réédité par Vendailleur il y a quelques années. C'est tout à fait disponible. Voilà, je vais faire quelques approches autour de ces deux textes, très très rapides, pour pouvoir essayer de recadrer un peu et d'arriver à identifier un peu un certain nombre de questions. Alors, bien évidemment, j'ai écrit un texte très long, que je ne vais pas vous lire, bien sûr. Mais je vais lire en partie... les parties consacrées à ces deux textes pour essayer de faire ressortir un certain nombre de points. Alors, le 4e siècle, le livre par lequel je vais commencer, il est publié en 1964. Et il met en scène les rapports triangulaire, conflictuel, installé entre, je reprends le vocabulaire ici du roman, le vocabulaire de Glissant, entre les maîtres, les esclaves et les marrons. En prenant en compte cette dernière catégorie qui est longtemps passée sous silence, on a l'impression que 1964, quand on lit le IVe siècle, c'est un autre temps. Tant ce dont il est question nous est devenu très très proche. Il faut essayer de se replacer dans ce qui était le paysage des littératures, des lettres, des lectorats en 1964. Et le roman de Glissant avait fait l'effet d'un coup de tonnerre. Hein. La Lézarde qui reçoit le prix Goncourt, c'est quelque chose d'extrêmement important, et on a un peu oublié ce passage-là. En prenant en compte donc la dernière catégorie des marrons, longtemps passée sous silence et en lui donnant la parole, Glissant illumine d'un éclat nouveau la patiente remontée dans l'imaginaire martiniquais qui est au fondement de son œuvre. C'est dans la remise en question du temps et de la durée que se met en place la narration de Papa Longoué, le quimboiseur, hein, qui est un personnage récurrent chez Glissant. Il ne s'agit point tant, en effet, de raconter une épopée à partir d'une chronologie abstraite que de parcourir une durée à partir de son inscription dans la vie de quatre hommes. Le IVe siècle, c'est quatre hommes. Longoué, Melchior, apostrophe, et Papa Longoué. Je cite Glissant. Nous appelons cela le passé, ce tourbillon de mort où il faut puiser la mémoire. En suivant un tel chemin, Papa Longoué dénoue pour Mathieu Belluse, qui est également un personnage récurrent qu'on voit apparaître jusque dans le tout monde, et dont on sait, Mathieu, depuis la Lézarde, qu'il mène des recherches historiques, les trames complexes par lesquelles s'est tissée la complexité de la société antillaise, martiniquaise plutôt. Traumatisée par une histoire qu'elle ne maîtrise pas, une histoire qui ne parvient pas à plonger dans un terroir, cette société a fini par occulter son origine servile. Il s'agit enfin pour Papa Longoué de parler contre le vide des consciences guettées par la folie ou bien bourgeonnantes de savoir livresque. La tâche de Papa Longoué, dernier témoin des acteurs de l'histoire, est bien de combler les trous de la mémoire, de renouer les fils déchirés du tissu social. Je cite encore une fois, c'est Longoué qui parle. Très beau texte. C'est parce que nous voulons, toi et moi, remonter le chemin du soleil. Nous essayons de tirer sur nous le jour du passé. Nous sentons que nous sommes trop légers sous ce poids, et pour remplir notre présence, nous sommes trop vides dans cette absence, cet oubli. Oui, notre présence dans le monde, une bien trop grande parole pour toi, pour moi, pour notre faiblesse et notre ignorance, mais une parole qu'il faut pousser devant nous comme une charrette sans brancard, puisque le monde est là et qu'il est ouvert, et que nous devrons de toute façon un jour dévaler nos mornes jusqu'à lui, parce que nous voulons connaître par nous-mêmes. Parmi plusieurs moments du roman, je retiens celui de l'abolition et de l'attribution de noms aux anciens esclaves par les commis de la République. C'est une scène particulièrement affligeante, qui accomplissent cette mission avec une bouffonnerie qui installe une nouvelle forme de dépréciation. Ils imposent des noms d'origines diverses, antiques, produits par différentes figures de style, ou bien par la marque de la plantation dont ils sont originaires. Les esclaves de Saint-Glisse sont ainsi nommés Glissants. Voilà, il y a une signature à l'intérieur du roman. Cette opération qui prouve la liberté retrouvée marque aussi la décomposition du paysage social. Tout se passe comme si cet acte qui invente de toutes pièces une origine avait finalement pour but de faire oublier le véritable commencement. Dans le même temps, s'affirme ceci qui me paraît essentiel et à partir de quoi la réflexion sur la créolisation prend corps, la terre des commencements africains est morte aux consciences. Il s'agit de fonder par une patiente anamnèse la réalité de la société antillaise, ce que raconte le personnage du roman, hein, c'est pas moi qui parle. On est bien d'accord. Enfin, réconciliée avec elle-même. Dans la rencontre entre Mathieu et Longoué, c'est ce délicat travail qui est mené. Mathieu doit détourner son attention des discours occidentaux qui recouvrent le monde entier, et c'est un palimpseste que Longoué l'aide peu à peu à déchiffrer, car de ce passé, il reste si peu et si peu à raconter. Voici encore une partie du texte. On ne peut tout à fait décrire l'état d'esclavage pour cette infime et irréductible donnée de la réalité que nulle description, nulle analyse jamais ne parviendront à l'inclure. l'esprit débile se réveillant à douleur, parfois s'exaspérant au long des jours pour retomber dans le quotidien, l'accepter, qui est plus horrible encore que le spasme de damnation. De même, il n'y a rien à dire d'une révolte de cette sorte, sinon qu'elle est le cheval de bois de la souffrance. La révolte d'un esclave n'est pas d'espoir, elle ne s'alimente d'aucun espoir, et il arrive qu'elle dédaigne des vengeances qui pourraient être le haut cri de l'espoir. Elle préfigure, elle inaugure l'action, l'opération la plus sourde et la plus pénible d'enracinement. La langue du narrateur n'est pas indifférente à cette tâche, veillant à ne pas perdre la diversité des aspects mis en jeu dans ce récit. Contre le discours unique et réducteur de la colonisation, l'écriture se fait souvent ample, privilégiant les formes longues et sinueuses qui prennent en charge la pluralité des informations. La langue du narrateur tente ainsi de substituer à la terreur de l'amputation pratiquée par les planteurs lorsqu'un marron était attrapé, une continuité de la langue, du corps et de la société. On croirait qu'à force de couper le bras droit et puis la jambe droite, ils ont fini par amputer tout un côté du corps, un poumon, un testicule, un œil, une oreille. Et voilà peut-être ce qu'il faut chercher dans l'entassement. Cette partie de toi où la brûlure sillonne comme un éclair et qui pourtant est restée loin de toi dans les bois ou sur la mer ou dans le pays là-bas, la moitié droite du cerveau. Cette recherche de la continuité et de l'unité de soi est de fait le sujet même du roman qui invite le lecteur à la rencontre des deux derniers membres des lignées ennemies enfin réconciliés. Peut-être ça la créolisation au départ. Et dont l'histoire conduit tout entière à cette rencontre et en rend possible la narration. Une narration qui se termine, je le rappelle, sur le mot, le dernier mot du IVe siècle, c'est « commencement ». C'est de ce commencement dont Glissant rendait la société martiniquaise redevable. La décolonisation des consciences s'accomplit, je pense, à ce prix. Deuxième texte que je voudrais mettre en relation, un texte qui est publié après, quelques années plus tard, dans un contexte qui est un contexte de très grand isolement. Même si ça se désenclave à ce moment-là en Haïti, ce que vit Haïti entre 1957 et les années 70-72, et sont des moments extrêmement difficiles, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, les affres d'un défi de Franck Etienne se présentent d'abord comme une expérience, celle d'un passage d'un texte, Desafi, publié à compte d'auteur en 1975 et que la police, que la censure Macoute n'avait pas vu venir, et qui est publié donc en 75 en créole haïtien, passe au français haïtien en 1979. Après la première Spirale, c'est un genre littéraire, là aussi je ne vais pas rentrer dans les détails, créé notamment ou inventé par, ou décrit par Franck Etienne, et notamment Jean-Claude Fignolet et le poète René Philoctète. Donc après cette première Spirale de Ultra Vocal, qui est un texte qui est lui aussi maintenant disponible en France, qui figurait l'aventure de la langue, qui était le seul espace de liberté dans un pays voué au mal pluridimensionnel, Franck Etienne s'attache à ce qui paraît bien le nœud des cultures haïtiennes, la confrontation des espaces, l'urbain, le rural, la République, le pays en dehors, c'est le clivage en Haïti, des groupes sociaux, oppresseurs, opprimés, tortionnaires, torturés, et l'inscription des êtres dans cette confrontation. Donc c'est très radical, les affres d'un défi. Plusieurs séries constituent cette spirale, séries qui se recoupent, se chevauchent et se rejoignent. Très très vite, pour situer, parce que peu de gens ont lu ce texte, je crois. Voilà ce que ça raconte. Dans un village de la campagne haïtienne, Saint-Île, les Offers, sont les exploiteurs assez sanguinaires d'une armée de zombies. Ils capturent les beaux parleurs et les malheureux de tous côtés pour nourrir leur terre de la violence quotidienne. Et c'est la fille de l'un d'entre eux, Sultana, qui alimente les zombies. Et évidemment, ne met pas de sel dans l'alimentation, puisque le grain de sel permet aux zombies de reprendre conscience de lui-même. Entre la démence et la lucidité, un grain de sel suffit à faire basculer les âmes. Ce qui frappe d'abord le lecteur des affres d'un défi, c'est la prolifération des êtres malfaisants, des animaux, des mystères néfastes, qui s'accrochent aux êtres, les possèdent, les dévorent, les engloutissent. La férocité dont font preuve ces puissances aliénantes s'exerce sur une humanité réduite, déniée même, le plus souvent. Et c'est depuis cette humanité terriblement souffrante, mais même cette infra-humanité du zombie, que l'histoire est racontée. Cependant, cette figure du zombie, en même temps qu'elle essaye de raconter intérieurement dans une espèce de conscience très très intérieure, puisqu'il n'accède pas au langage, cette figure du zombie devient celle de l'inarticulation, de la parole réduite à l'émission de la voix. On a de la retranscription des cris des zombies dans le texte. Ouah, ouah. Cet espace de la dépossession de la parole est en fait réinvesti par la parole poétique que rien n'arrête, qui s'enroule autour d'un certain nombre de thèmes et qui décrit des motifs récurrents, un paysage desséché opposé à un espace humide, celui de l'exploitation, celui de la tentative de fuite, celui de la claustration qui est opposé à l'ouverture. Et la voix poétique s'inscrit complètement dans le texte et revendique sa place, malgré l'horreur des massacres et de la torture. Alors on aura bien compris, cette représentation de cet espace dans la campagne et vaut pour représentation d'Haïti tout entier. Le zombie, au-delà du mythe grand guignolesque récupéré par le cinéma hollywoodien, je pense au film de Tourneur, I Walked with a Zombie, qui est quand même un grand moment de ce cinéma-là, c'est la terrible réalité de l'humanité haïtienne, déniée dans son humanité même, et que Franck Etienne fait entendre depuis son intériorité même. Hein, j'essaye de mettre ceci en rapport avec ce que j'ai lu du 4e siècle tout à l'heure, qui parle de la difficulté ou de l'impossibilité même à faire entendre la parole de l'esclave. C'est la continuation de l'économie plantationnaire après la libération et l'indépendance que met en évidence le texte de l'auteur. Voilà, et alors je peux continuer encore assez loin, mais moi ce qui m'intéresse c'est de faire entendre justement cette voix intérieure des zombies que Franck Etienne vient essayer de rappeler. Hein, essayer d'être au plus près de la folie, de la dissociation, et de ce qui permet à l'opprimé de résister à son effondrement. Hein, guettant les zigzags de la lumière dans la béance du miroir, nous percevons les gargouillements de l'engloutissement sous les éboulis des ténèbres. Hors du gouffre, notre cœur s'emballe, inextinguible lampe nourrie de notre sang, inclinée vers nos douleurs, ivresse de palper le ventre de la lune chabine dorée, étrange partie de billard où les éclairs et nos mains s'entrecroisent, miraculeux accouplement de nos rêves avec la foudre, deux temps, trois mouvements, la vie change de plumage. Mais contre l'obscur, cette reconquête incessante qui enfante des cornes de lumière, ne suffit pas. Il leur faut retrouver la mémoire et les lieux dans lesquels celle-ci s'est inscrite. À chaque échappée de conscience correspond une nouvelle exploration du langage, comme si l'aliénation subie avait toujours eu pour objectif d'interdire aux paysans d'investir les lieux de leur existence. Et c'est là où le texte de Franck Etienne devient tout à fait essentiel, comme si après l'indépendance en Haïti, Haïti n'existait toujours pas pour justement ces paysans qui sont sans cesse dépossédés, sans cesse en lutte contre ceux qui essayent de leur arracher leurs terres. Explorant vallées, montagnes et plaines, nous avons vomi un flux de paroles ambiguës aux sonorités rauques et gutturales. Nous avons frappé rageusement nos tambours en hurlant des chants à garder notre âme debout. Interminable clameur gonflée de révolte. Après des jours et des nuits de marche, nous cédons notre place, à d'autres voix de la tribu pour la persistance des cris. Feu symphonique des raras, écho des vaccines, rassemblement sous le mapou. Le convoi s'apprête à franchir le fleuve. À l'avant-garde, la bouche du samba hurle des couplets frénétiques, animés par le cœur des chanterelles et repris par une grappe de voix enflammées. Parcourant les corridors, les bois et les régions peuplées de alliés, nous parvenons à recouvrir d'innombrables fragments d'histoire, à reconstituer des tas de rêves oubliés. Le dernier constat important que je ferai dans ce texte de Franck Etienne, c'est celui de l'utilisation récurrente de l'histoire des fondations haïtiennes comme faire-valoir. On connaît tous par cœur, et je ne vais pas le rappeler ici, le vers de Césaire, des Cahiers d'un retour au pays natal, Haïti, etc. etc. Bien. Et ce que dit Franck Etienne n'est surtout pas dirigé ni contre Césaire, ni contre cette phrase, mais par la réutilisation récurrente de ce verset, qui finit par faire en sorte que la présence des héros de l'indépendance, des Toussaint Louverture, des Salines, Pétion, etc., etc., a été comme une sorte de voile, fonctionne comme une sorte de voile sur lequel se projette une sorte de mythologie et qui a peut-être empêché à la réalité de se mettre vraiment en place en Haïti. C'est en tout cas ce qu'écrivent actuellement un certain nombre d'écrivains haïtiens, je pense à Franck Etienne évidemment, mais Gary Victor, Dany Laferrière, etc., qui reviennent tous actuellement sur la façon dont cette histoire a été érigée comme une sorte de... C'était au début un point de référence et c'est devenu un fétiche et un fétiche extraordinairement contre-productif. Les voix narratrices se livrent dans ce cas à la critique d'un lieu commun des littératures haïtiennes, lieu commun qui a fini par barrer tout accès à une réelle prise de conscience des formes modernes de l'oppression. Nous imaginons, pour le ressourcement de notre âme, la résurgence d'une musique enfouie sous les sédiments de l'histoire, la résonance du lambi et le grondement du tambour au fond des mornes. Impuissants et passifs, nous perdons notre temps à mesurer l'inclinaison du soleil dans le balancement de nos ombres, sans pouvoir décider l'heure du départ. Voilà, il y a un tas de figures, encore une fois, qui disent ceci dans l'œuvre de Franck Étienne, mais c'est aussi pour moi là où elle rejoint, où celle de Glissant et celle de Franck Étienne se rejoignent, précisément à travers ce que tu as dit. On n'est pas du tout dans des mondes qui sont des mondes pacifiés, on n'est pas du tout dans des mondes dans lesquels le mélangisme est de règles. Il y a des actes qui, justement, pour être racontés, doivent provenir de ceux qui n'avaient pas la maîtrise des mots, n'avaient pas la maîtrise de l'histoire et n'avaient pas la parole. Et donc toute la figure de l'écrivain, toute la difficulté de l'écrivain est essayer de donner forme et force à des histoires que finalement personne ne connaît, sinon sous des registres qui sont des registres distants, lointains, et des registres, pour faire court, et évidemment, de par ma fonction, j'y mettrai aucun mépris, mais des histoires qui sont essentiellement universitaires, ou bien des choses pour faire plaisir aux enfants. Alors que le vrai travail consiste à aller au fond de conscience qui sont verrouillées et qui sont barrées par toute une série de représentations dont il faut arriver à se défaire. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il raconte. C'est cela la métaphore du sel. Voilà, je terminerai très très vite en disant que ça, ce sont quelques réflexions enclenchées par la question qui a été posée. Il était question de bien commun dans le titre. Le bien commun, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on voit chez Glissant, qu'on lit chez Glissant, notamment dans le traité du Tout-Monde, cette accélération dans la mise en œuvre des dispositifs et des processus qui leur sont liés, et dont le point de départ aura été en partie la mise en place dans les anticoloniales d'une exploitation pré-industrielle des ressources naturelles. Il ne faut jamais l'oublier. Et des ressources naturelles dont certaines sont des ressources d'importation. Je rappelle que la canne à sucre arrive à Saint-Domingue avec le deuxième voyage de colons. Il s'arrête aux Canaries, il prend des plants de canne à sucre et il les emmène à Saint-Domingue. Il ne faut pas oublier cette histoire. Et on doit se rappeler qu'elle a préfiguré l'amoindrissement de l'humanité dont le XXe siècle nous a donné une réalité qui vaut comme un désastre généralisé. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Il n'y a pas de quoi se glorifier du XXe siècle en Europe. Tout ça pour finir par dire que ce qui se passe là-bas et dont les écrivains nous apportent l'imaginaire, eh bien, bien évidemment, c'est aussi constitutif de notre propre imaginaire ici. Voilà, je vous remercie.